France Inter, le 6-9.
La revue de presse, Laetitia Gaillet. Ce matin, Laetitia, le ministère de la destruction de l'environnement.
Le 5 avril dernier, le secrétaire d'État slovaque à l'environnement, pro-russe et nationaliste comme son gouvernement, ce blond barbu de 36 ans, connu jusqu'ici davantage pour ses convictions anti-LGBT que pour ses convictions environnementales, a posté une vidéo de lui en train de survoler le parc national de Malafatra. Son hélicoptère était à une altitude bien trop basse, 100 mètres au lieu des 300 autorisés. La nidification des aigles et des faucons a été mise en danger. Le site du Monde vous présente Philippe Koufa, qui depuis ce survol doit faire face à des appels à la démission. Ses habitudes de déplacement peu écologiques énervent, mais il ne montre aucun regret. Peu importe que nous soyons dans un parc national ou dans une zone protégée, si un propriétaire m'emmène quelque part pour me montrer sa propriété, je continuerai de l'accompagner à quad, en jeep ou en hélicoptère. Et Philippe Koufa de poster une autre vidéo, lui en quad, dans le parc de Polignini, en dépit de l'interdiction des engins motorisés. « Quand j'étais directeur du parc, dit Marek Kuchta, même les hélicoptères de l'armée devaient demander une autorisation. » Oui, mais Marek a été récemment débarqué, comme des dizaines d'autres fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Jugés trop gênants par le pouvoir slovaque, ils ont été remplacés par des affidés aux compétences douteuses, mais alignés sur leurs convictions. Ainsi, un homme puni par le passé pour braconnage, il avait tué des loups, est devenu directeur du parc des Hautes Tatras. Ce nouveau directeur agirait en réalité sous les ordres du propre frère de Koufa, un éleveur qui rêverait de pouvoir étendre ses activités de pâturage dans le parc.
Son père, à lui, était un dissident russe dans les années 60.
Andrei Sinyavsky, arrêté par le KGB en 1965 sous les yeux de son fils et envoyé dans un camp de rééducation en Mordovie. L'écrivain et journaliste franco-russe Yegor Gran raconte à Sud-Ouest que depuis, il cherche à comprendre qui sont ses agents. Il vient de traduire un document rare, un manuel d'instruction du KGB datant de 1969. Comment les recrutait-on ? Par sympathie idéologique, par la corruption ou par le chantage ? Le chantage pouvait être d'ordre sexuel, mais il pouvait aussi être d'ordre historique. On pouvait ainsi faire pression sur d'anciens collaborateurs des nazis. Ils étaient en fait repérés des années à l'avance, tout était étudié. L'élève était ensuite testé en permanence, il prenait des cours d'orthophonie pour avoir une prononciation impeccable. À la sortie, l'affectation dans un pays occidental prospère était une sorte de Graal pour les meilleurs. Vladimir Poutine, lui, a été affecté à Dresde, ce qui signifie qu'il était un agent médiocre. Mais il a été formaté par le système, explique Yegor Gran, système où l'on vous apprend à être invisible, où la prise de décision est lente, méthodique. Et ça dit beaucoup de la Russie de 2024. Regardez la guerre en Ukraine, on amasse, dit-il, des troupes, des chars, on discute, on planifie et puis on avance en rouleau compresseur.
Et en Russie, il y a aussi le rouleau compresseur de la justice.
Le Figaro fait parler ce matin les avocats d'opposants au pouvoir. Yana Nepovinova a 27 ans. Elle a compris les règles du jeu à respecter. Il faut essayer de continuer à faire de son mieux dans les conditions qui sont les nôtres. Elle défend Alexandra Skotchilenko. Son crime ? Avoir remplacé les prix dans un supermarché par de petites étiquettes avec des chiffres sur les morts en Ukraine ? 7 ans de prison. Cette affaire a endurci Yana, qui se rappelle les audiences dans des salles étouffantes où seule la juge avait droit à un ventilateur. Et c'est fou, dit-elle. Les attaques les plus violentes sont venues d'autres avocats. À les entendre, la sévérité du verdict est due à la médiatisation de l'affaire. En Russie, l'acquittement n'existe pas, écrit le Figaro. Igor, un autre avocat, dit que les affaires qui impliquent la sécurité de l'État ne sont pas considérées. Le rôle de l'avocat est décoratif. Maria Esmond, l'une des avocates les plus exposées, dit qu'avancer sans boussole morale serait triste. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à influer sur la pratique de ma profession en Russie. Je n'ai pas d'affaires, j'ai des gens à aider. Et puis elle y croit. Nous travaillons pour l'avenir, pour que quand tout changera, ces affaires soient révisées, qu'il y ait des traces, des preuves, c'est crucial. À travers ces affaires, dit-elle, l'histoire est aussi en train de s'écrire.
Et en France, pour les femmes, une partie de l'histoire s'est justement écrite il y a 80 ans.
Le droit de vote adopté par l'Assemblée constituante provisoire installée à Alger le 21 avril 1944 via un amendement de Fernand Grenier. Il faudra attendre, écrit l'Humanité, le printemps 45 et les élections municipales pour que les premiers bulletins de femmes soient légitimement placés dans l'urne. Et que votaient ces femmes ? On découvre via la Croix qu'elles ont d'abord d'abord voté plutôt à droite, et plus à droite d'ailleurs que les hommes. C'est pour ça que les radicaux socialistes leur ont refusé longtemps le droit de vote. Ils craignaient, explique la politologue Janine Mossu-Lavaux, que leur choix soit influencé par l'Église. Mais les temps ont changé. Avec les années, elles ont voté un peu plus à gauche que les hommes, un peu plus socialistes, un peu plus écolos. C'est lié à leur rôle dans la famille. Elles sont plus sensibles aux problèmes de santé, de pollution, dit Janine Mossu-Lavaux. La plupart du temps, ce sont elles qui s'occupent des enfants et les emmènent chez le médecin. Et cette tendance est la même aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ces dernières années. Mais ce qu'on note aussi, relève la Croix, et c'est particulier à la France, depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National, il n'y a plus de différence entre le vote des femmes et celui des hommes à la présidentielle.